Bonjour à tous et bienvenue dans Echo, le podcast du CESM qui vous parle en compagnie d'un expert de stratégie navale. L'océan Pacifique, c'est 166 millions de kilomètres carrés, soit près de 300 fois la France métropolitaine et une superficie supérieure à la totalité des terres émergées. C'est aussi 45 états riverains, dont de nombreux petits états insulaires et plusieurs territoires d'outre-mer. Un territoire immense donc, très peu peuplé dans sa partie centrale, aux distances considérables, aux enjeux multiples. Et on l'oublie parfois, la France est aussi un pays du Pacifique, puisqu'elle y compte plusieurs territoires d'outre-mer. Une France du bout du monde, à plus de 15 000 km de Paris. Loin de l'image des plages paradisiaques de la Polynésie, cette France du Pacifique est directement confrontée aux enjeux de cette région. À la fois les défis environnementaux, la sécurité, la rivalité entre les grandes puissances, mais aussi ce qu'on appelle la tyrannie des distances. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui le contre-amiral Jean-Mathieu Rey, commandant la zone Adisi-Pacifique et les forces armées en Polynésie française. Merci amiral d'avoir répondu à notre invitation à l'occasion de l'un de vos passages à Paris.
Merci à vous.
Alors amiral, comme on l'a dit en introduction, la France est un pays du Pacifique. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter ces territoires français et plus précisément votre fonction en tant que commandant de la zone Asie-Pacifique ?
Donc la France est un pays d'Indo-Pacifique, de Mayotte à l'ouest jusqu'à la Polynésie française et même Clipperton à l'est du Pacifique. Et dans cette immense zone, nous avons un certain nombre de territoires. Nous sommes près de 2 millions de Français à y vivre, avec 9 millions de kilomètres carrés de zone économique. Donc nous avons des intérêts, des concitoyens, des territoires, je l'ai dit, et des zones maritimes à surveiller, à protéger. Et c'est la fonction du commandant de la zone Asie-Pacifique que je suis, d'assurer ces missions de protection des intérêts français pour ce qui me concerne, protéger la Polynésie et les Polynésiens, mais aussi les intérêts français dans l'ensemble de l'Asie-Pacifique. Donc je suis le chef militaire pour les moyens militaires qui sont déployés dans cette partie du monde, en coopération avec le chef militaire français qui est à Nouméa, pour ce qui concerne le sud-ouest de la zone, donc la partie ouest de l'Océanie.
Alors justement, vous avez une particularité en tant que marin, je crois, c'est que vous ne commandez pas que des marins.
Oui, alors c'est un commandement interarmée, donc il y a effectivement les trois armées, l'armée de terre, avec des régiments de l'infanterie de marine, la marine, avec des bâtiments de surface, mais aussi des aéronefs, hélicoptères et avions de l'aéronautique navale, et l'armée de l'air avec des avions de transport. Sur l'ensemble de l'Indo-Pacifique, nous sommes plus de 7000 militaires français basés en permanence, périodiquement renforcés, quand le groupe aéronaval est déployé, quand le groupe amphibie Jeanne d'Arc va jusqu'au Japon. Par exemple, quand l'armée de l'air déploie des aéronefs, de la même façon, ces moyens sont, quand ils sont en Asie-Pacifique, sous mon commandement.
Alors, la France est le seul pays membre de l'Union européenne présent territorialement dans le Pacifique. Est-ce que ça lui donne une responsabilité particulière ?
Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis de notre souveraineté. Ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Donc, faire en sorte que nos ressources ne soit utilisé que par nous-mêmes. Donc c'est la mission action de l'État en mer ou fonction garde-côte. Et il y a aussi une autre mission très importante, la mission d'assistance humanitaire, puisque ce sont des zones du monde qui sont soumises périodiquement à des catastrophes naturelles et il faut être en mesure de supporter le choc et après de réagir pour prêter assistance aux populations. Nos populations en priorité, mais aussi celles des voisins. Je pense au Tonga, c'est ce que nous avons fait. Les forces françaises du Pacifique, basées à Nouméa et à Tahiti, pour aider les Tongiens après l'éruption volcanique suivie d'un tsunami qui les a frappés en janvier dernier.
Alors, d'une façon générale, d'après vous, quels sont les atouts et les faiblesses de la France, justement, dans cette région ?
Alors, les atouts, c'est déjà d'être légitime dans cette partie du monde, c'est-à-dire d'y être présent en permanence avec des concitoyens qui se sentent français, qui sont français, la Polynésie, pour ce qui me concerne, un peu moins, nous sommes un peu moins de 300 000, et tous les ans, vous avez 600 jeunes polynésiens qui s'engagent dans les armées françaises. Donc ça montre bien l'attachement de ce territoire. 600, c'est le même chiffre que ce que l'on fait en Île-de-France, où nous sommes 12 millions. Donc vous voyez un peu la proportion d'engagement. Il y a aussi notre légitimité parce que les actions que nous conduisons. Il y a aussi notre légitimité par les actions que nous conduisons, au profit donc de nos territoires, mais aussi de la sécurité dans l'ensemble de la zone. Je pense à la lutte contre la prolifération nucléaire qui se développe en Corée du Nord il y a un embargo ou une opération équivalente qui est en place et à laquelle la France est partie et pleinement engagée avec les bateaux et les avions que nous avons basés en permanence dans le Pacifique ou périodiquement renforcés. Je citais précédemment le groupe Jeanne d'Arc qui, lorsqu'il a été déployé jusqu'au Japon, a participé à cette opération.
On le sait, le Pacifique est confronté à des défis importants liés à la crise climatique. Comment est-ce que les territoires français du Pacifique s'y préparent ?
La crise, les risques climatiques, comme je le disais, sont permanents dans cette zone du monde. On est dans une zone tropicale qui subit périodiquement des cyclones. Et les forces qui y sont basées, c'est le cas des forces que je commande basées en Polynésie française. Après chaque relève de personnel, on conduit une préparation de nos familles et de nos équipes, de nos militaires, pour être en mesure, encore une fois, de faire face à la catastrophe quand elle arrive, et après être en mesure de porter assistance. Donc ce sont des exercices qu'on conduit en interne, et on fait également, au niveau international, des grands exercices pour être en mesure de réagir, encore une fois, comme on l'a fait au Tonga. Grands exercices, c'est ce que nous venons de conduire, à l'exercice Marara, qui a duré 2 semaines, plus de 1000 militaires de 13 nations du Pacifique qui se sont entraînés sous mon commandement. Bon, d'abord, une phase d'entraînement mutuel ensemble dans les 3 composantes, terre, air, mer, et puis après, une phase d'apport d'aide humanitaire dans le cadre d'un pays fictif frappé par un cyclone. C'était joué par les îles de Wainé et Raiatea en Polynésie française. Un exercice d'évacuation de ressortissants. C'était certains de nos militaires et populations locales qui jouaient les ressortissants évacués, et enfin une dernière phase de sécurisation. Donc tout ça à 13 nations, c'était un défi important, parce qu'on n'a pas tous les jours l'habitude de travailler tous ensemble, et c'est ce que nous avons réalisé avec succès les 15 derniers jours.
Alors, de récents événements ont montré l'activisme de la Chine dans cette région. On a le pacte de sécurité, par exemple, avec les îles Salomon, l'inauguration d'un centre de coopération multilatérale avec les États insulaires sur le changement climatique, sans parler de nombreux accords passés avec des États insulaires de la zone. Comment est-ce que vous percevez cette évolution ?
Dans le Pacifique, il y a clairement des tensions qui se créent entre les deux grandes puissances mondiales, que sont les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. La France a une stratégie de puissance d'équilibre, parfois présentée comme une troisième voie. L'idée est de refuser la logique de deux blocs. Un bloc derrière la Chine, un bloc derrière les États-Unis d'Amérique. Nous sommes des alliés des USA. Nous sommes même le plus ancien allié. Ça, c'est l'histoire qui veut ça. Et nous sommes toujours alliés, mais nous ne sommes pas alignés derrière eux. De la même façon, lorsque la Chine conduit des actions illégales contre nous, nous le disons, mais nous voulons maintenir un dialogue, un contact avec les autorités chinoises. Et moi, à mon niveau de chef militaire dans le Pacifique, c'est ce que je fais périodiquement avec mon alter ego chinois qui est basé à Canton, qui est un général qui s'appelle Wang, et avec lequel je dialogue sur les sujets de sécurité et de stabilité. Le respect du droit international, nous y sommes extrêmement attachés, et le multilatéralisme, c'est-à-dire cette volonté de travailler ensemble pour résoudre les problèmes qui se présentent à nous.
Justement, quelles sont vos relations, amiral, avec la Chine ? Est-ce qu'on peut parler de coopération positive ?
Là, ce serait aller loin en parlant de coopération. Il y a un dialogue qui est maintenu. Il y a une volonté française de comprendre l'approche chinoise et de se faire comprendre par les Chinois. Donc il est nécessaire de parler. Il est nécessaire aussi d'être présent physiquement avec nos bateaux, avec nos avions, avec nos unités, conformément au droit international. Et il est important aussi d'expliquer, de répéter aux Chinois l'attachement que nous portons à ce droit international qui est la clé de la sécurité et donc de la prospérité dans cette partie du monde et de façon générale dans le monde.
On va passer maintenant au sujet de la pêche illégale. On sait que la pêche illégale est très développée dans le Pacifique. Comment est-ce que la France agit pour s'y opposer ? Parce que c'est une des priorités définies par le président de la République, justement.
Alors, c'est une question de souveraineté et de respect du droit. Chaque État a un certain nombre de ressources qui lui sont propres et qu'il peut utiliser comme bon lui semble. C'est le cas de nos zones économiques exclusives, donc 9 millions de kilomètres carrés pour l'ensemble de l'Indo-Pacifique, plus de 6 millions de kilomètres carrés rien que dans le Pacifique, donc c'est énorme. En Indo-Pacifique, c'est la France, la République française, qui a la plus grande zone économique exclusive. Ce n'est pas le Japon, ce n'est pas les États-Unis d'Amérique, ni l'Australie, ni la Chine, c'est la France. Donc il y a ces zones, cette richesse qu'il s'agit de protéger, que nous faisons avec un système en plusieurs barrières, une surveillance permanente par les balises que tous les pêcheurs doivent porter, ce qu'on appelle les AIS-VMS, une deuxième barrière avec un contrôle périodique des images satellites, vérification dans le cadre d'une troisième barrière avec nos avions, nos bateaux, les visites que l'on conduit sur les bateaux de pêche. Et ce que j'aime bien appeler la quatrième barrière, c'est la surveillance par les pêcheurs qui coopèrent avec nous, pêcheurs français, mais aussi d'autres nations. Et donc, on a ainsi un maillage qui nous permet, et qui me permet aujourd'hui, d'affirmer que les zones économiques françaises sont protégées, et ainsi, on évite le pillage de ces zones françaises, de ces eaux sous souveraineté française, sous juridiction française, pour être parfaitement exact. À partir de cela, nous avons une volonté de coopération, comme le dit la formule. Notre défense commence au large. Donc nous avons intérêt à ce que la protection de l'ensemble des zones économiques soit assurée de façon fiable. Et donc nous aidons nos partenaires dans le cadre d'un réseau garde-côtes que nous avons développé dans le Pacifique et que nous cherchons à renforcer en donnant des formations à nos partenaires si nécessaire, en leur allouant des moyens dans la mesure du possible et en échangeant de l'information. Donc ces trois volets, formation, information et intervention, nous permettent d'agrandir, d'élargir notre maillage et renforcer ainsi notre protection contre la pêche illégale.
Amiral, justement, nos territoires et surtout leurs zones économiques exclusives peuvent être convoitées. A-t-on les moyens de les protéger efficacement ?
Alors, comme je vous le disais, j'ai la conviction que la protection est correctement assurée. Mais il faut toujours chercher à avoir un coup d'avance vis-à-vis de nos adversaires. Donc nous modernisons nos moyens. Vous savez probablement que nous allons avoir de nouveaux patrouilleurs d'outre-mer dans les trois années à venir, 6 nouveaux patrouilleurs qui vont être déployés à La Réunion, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Et de la même façon, nos moyens de surveillance maritime par aéronef, donc les avions Falcon, actuellement les Falcon 200 Guardian, qui vont être remplacés dans la décennie, par des Falcon 2000 Albatros, donc des avions qui vont plus loin, qui ont de meilleurs senseurs, de meilleurs moyens de détection. Donc on améliore ainsi nos capacités d'intervention pour maintenir cette capacité de protection. Sachant qu'il faut reconnaître que nous avons déjà été pillés. Ça a été le cas à une époque dans les eaux des Kerguelen, jusqu'au début des années 2000. Nous avons fini par arrêter ces actions illégales en saisissant les bateaux, en mettant les capitaines en prison et en dégoûtant ainsi nos adversaires de venir nous piller. De la même façon, les Blue Boats qui étaient dans les eaux de Nouvelle-Calédonie, des pêcheurs vietnamiens qui ont été chassés en lien avec l'Union européenne d'ailleurs, sous la menace de voir le Vietnam exclu de tout échange économique avec l'Union européenne. Cette mesure extrêmement dissuasive, avec une action sur le terrain aussi, nous a aidé à faire arrêter ces pêches illégales venant du Vietnam.
Qu'est-ce qu'on appelle, amiral, exactement les Blue Boats ?
Les Blue Boats, c'était tout simplement des bateaux de pêche vietnamiens qui étaient de couleur bleue. Donc voilà, ils se distinguaient des autres et donc on les a appelés les bateaux bleus.
Alors amiral, est-ce que vous pourriez nous expliquer d'une façon générale qu'est-ce que les États insulaires de la région attendent de la France ?
Les États insulaires sont soumis, encore une fois, aux mêmes risques, aux mêmes menaces que nous. Nous avons parlé de catastrophes naturelles, cyclones, tsunamis, éruptions volcaniques. Face à ces menaces, la France a des réponses pour ses territoires et cherche à mettre en commun ses moyens avec d'autres. C'est le cas dans l'accord FRANZ, comme France, Australie, Nouvelle-Zélande, donc ces trois pays, dont le nôtre, ont mis en place un accord pour, face à une catastrophe naturelle, réagir ensemble. C'est exactement dans le cadre de cet accord que nous sommes intervenus au Tonga. Donc il y a une volonté, une demande de la part de nos voisins insulaires d'avoir de l'aide pour ceux qui ont les moyens pour intervenir. De la même façon, la pêche illégale. Vous avez certains pays qui ont d'immenses zones économiques exclusives et qui n'ont pas possibilité de surveiller les balises dont je parlais, AIS, VMS, de faire des photos satellites, d'avoir des avions, des bateaux pour surveiller, comme je le disais. Mais ils ont la capacité de participer au maillage que j'évoquais avec des bateaux de pêche qui leur appartiennent, qui reportent les détections qu'ils ont. Et nous, avec nos moyens, d'autres partenaires, par exemple ceux que je citais dans le cadre de l'accord France, nous aident, également les États-Unis d'Amérique, le Japon, de plus en plus présent dans le sud du Pacifique, de façon à sécuriser cette zone. Donc nous avons une stratégie de partenariat, de coopération, et la France apporte un élément des réponses, mais réponses qui sont internationales, c'est-à-dire qui se font à plusieurs.
Merci beaucoup, Amiral, d'avoir partagé avec nous vos connaissances sur cette région du monde qui est, rappelons-le, au centre des grands enjeux sécuritaires de notre pays. Merci également à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner au podcast du CESM, à la fois Echo et Periscope, mais aussi à nous donner une note sur les plateformes de podcast et à nous dire ce que vous en pensez. Toutes les remarques sont bien sûr les bienvenues. À très bientôt pour un prochain épisode d'Echo, le podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.